Nous étudierons aujourd'hui une des paraboles de Jésus parmi les moins connues. La voici telle qu'elle nous est rapportée au chapitre 14 de l'évangile de Luc. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. » « Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » La scène décrite dans ce récit est particulièrement navrante. Chacun peut en effet se mettre à la place du maître de maison qui s'occupe de tous les préparatifs pour ne recevoir que les excuses de ses invités indélicats qui ne viendront pas. La situation est en réalité offensante pour le maître, d'autant plus que les excuses ne sont que des prétextes. Un examen même succinct dévoile la futilité des raisons invoquées. L'un vient d'acheter un champ et voudrait aller le voir pour en caresser des yeux chaque motte, pour jouir dans son cœur de sa nouvelle acquisition. L'autre vient d'acquérir 5 paires de bœufs. Il voudrait les essayer pour voir comment ils se comportent sous le joug, comment ils répondent à la voix et à l'aiguillon. Il aurait pu remettre au lendemain ce projet, car s'il a acheté ses bêtes, c'est qu'il les a déjà vues. Il en est de même pour celui qui vient d'acheter un champ. Quant au troisième, il vient de se marier. Les noces sont terminées. Rien ne l'empêchait donc d'honorer l'invitation du maître de maison, en lui consacrant quelques heures. Ce sont là des occupations qu'ils auraient tous pu prévoir et remettre. Elles ne comportaient aucun caractère d'urgence, et certainement ne constituait pas un obstacle à l'invitation. Le fait est qu'ils s'étaient flattés d'avoir été invités, mais ils avaient néanmoins organisé leur vie comme si de rien n'était. Cette invitation n'avait aucunement influencé ni leur vie ni leur projet. Leurs excuses ont quelque chose d'insolent, de profondément offensant. Nous avons tous reconnu Dieu sous les traits de l'homme qui donna un grand souper. Le grand souper suggère son hospitalité généreuse et sa grande bonté. David avait déjà chanté ces caractéristiques de Dieu. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. » Mais plus précisément, peut-être encore, le grand souper, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Dans la Bible, le Christ est en effet associé à l'idée d'abondance, de satisfaction complète, de pleine mesure. C'est lui qui est pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est aussi en lui que peut se trouver la paix qui surpasse toute intelligence. C'est lui encore qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Voilà, le banquet est prêt depuis que le Christ s'est offert sur la croix. Les portes sont ouvertes largement et l'invitation au salut est lancée au monde entier, à toutes les races, à tous les pays, en toutes les langues. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Chers auditeurs, êtes-vous de ceux qui s'inventent des excuses pour échapper aux exigences de la loi du Christ? Les excuses que nous avons relevées dans la parabole ont été formulées il y a quelques 2000 ans. Mais elles n'ont pas vieilli. Elles sont encore le reflet des hommes d'aujourd'hui, car les hommes n'ont pas changé. Ils sont toujours aussi préoccupés par des considérations matérielles, toujours aussi accaparés par des obligations sociales de toutes sortes. La religion, c'est bien beau, mais vous n'y pensez pas. Mon travail, mes rares loisirs, je n'ai guère le temps. Il y a ainsi une quantité de choses qui ont à nos yeux plus d'importance que Dieu lui-même. Nous sommes enracinés à la terre. Nos yeux sont ainsi limités dans leur vision, car ils ne voient que ce qui est visible. Nous nous enlisons lentement dans le temporaire, dans le périssable. Or, le festin de l'Évangile est une occasion de voir plus loin, de voir plus grand et plus beau que notre pauvre vie. Il nous fournit le moyen d'accéder à des espérances éternelles. Mais voilà, nous n'avons pas le temps. C'est le drame de notre époque. Michel Quast, dans une courte méditation, remarque que les hommes vont, viennent, marchent, courent, roulent, la rue court, la ville court, tout le monde court, pour ne pas perdre de temps, à la suite du temps, pour rattraper le temps, pour gagner du temps. Au revoir, monsieur, excusez-moi, je n'ai pas le temps. Je repasserai, je ne puis attendre, je n'ai pas le temps. Je termine cette lettre car je n'ai pas le temps. J'aurais aimé vous aider, mais je n'ai pas le temps. Je ne puis accepter, faute de temps. Je ne peux réfléchir, lire, je suis débordé, je n'ai pas le temps. J'aimerais prier, mais je n'ai pas le temps. Cependant, même lorsqu'on n'a pas le temps, il faut quand même prendre le temps de mourir. Mais alors, il est trop tard, on n'a plus le temps. Qu'a-t-on fait du temps, des jours, des minutes que Dieu nous a confiés? Il est vrai que certaines personnes sont heureusement préoccupées par les exigences de l'Évangile. Cependant, elles remettent au lendemain une résolution, une décision qui s'impose aujourd'hui. Le temps qui passe ne se retrouve plus. Notre vie spirituelle doit s'organiser comme s'il n'y avait pas de lendemain terrestre. C'est avec flamme que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Souvenons-nous des conversions au premier siècle. Ceux qui croyaient en Jésus-Christ recevaient le baptême dans l'heure même. Ainsi, l'Éthiopien à qui l'évangéliste Philippe annonce l'Évangile, dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres, demande lui-même à Philippe, alors qu'il se trouvait à proximité d'une rivière ou d'un point d'eau quelconque, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» L'évangéliste répondit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » De même, le gardien de prison, à qui Paul prêcha l'Évangile dans la ville de Philippe en Macédoine, au milieu de la nuit, se fit baptiser sur l'heure même au péril de sa vie. Ce détail atteste d'ailleurs de l'importance capitale du baptême dans la conversion. Autrement, il eût été plus commode de reporter la cérémonie à une date ultérieure, en des circonstances plus propices et plus pratiques. Mais l'appel du Christ était trop clair, trop pressant, trop impérieux. Parmi toutes les excuses que nous pourrions énumérer, il en est une qui revient assez souvent. J'ai perdu goût et confiance en la religion. On m'a trop bourré le crâne lorsque j'étais gosse. Cette excuse est sans doute sincère. Il se peut que des parents mal avisés aient appliqué une méthode par trop vigoureuse et maladroite, par laquelle ils ont obtenu des résultats contraires à ce qu'ils avaient souhaité. Cependant, il est toujours malaisé d'entendre un homme rejeter sur ses parents la responsabilité des conséquences de son attitude. De toute manière, s'il cherche à se débarrasser des contraintes de sa jeunesse, il choisit la mauvaise méthode en rejetant en bloc la religion. Si donc vous vous sentez victime d'une instruction religieuse que vous jugez mauvaise, au lieu de tout rejeter, recherchez plutôt les enseignements du Christ tels qu'ils vivent dans la Bible. Soyez attentifs à ce qu'il vous dit et soumettez-vous à ses commandements. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il est temps à présent d'écouter la fin de la parabole. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Chers amis, nul d'entre nous n'est trop vieux, ni trop jeune, ni trop fatigué, ni trop bon, ni trop méchant pour bénéficier de l'Évangile. Nul d'entre nous n'a le droit devant Dieu d'être trop occupé au point d'être préoccupé par les affaires de ce monde. Ne nous imaginons pas autrement qu'à l'heure de la mort, il y aura encore de la place au banquet de la vie éternelle car toutes les places seront occupées par ceux qui ont entendu l'invitation universelle et qui l'auront acceptée.